Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la JT du local. Évidemment, vous êtes bien sur l'autre radio, sur votre émission quotidienne d'actualité mayonnaise. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 23 décembre et au menu de cette émission, on va parler et on va tester, alors tester évidemment via les oreilles, on ne peut pas tester en vrai, mais tester le hula hoop et la hoop dance avec des nouveaux cours qui seront proposés dans le Nord Mayenne à Saint-Georges-Butavant à partir du mois de janvier. On en parle avec la professeure et donc créatrice de l'association organisatrice Jeanne Rosier. Et puis on va aussi parler d'une opération Soyons culottés pour un Noël culotté, une opération qui vise à donc éviter en tout cas ou limiter la précarité menstruelle des collégiennes avec une opération de vente et donc de distribution de culottes menstruelles. On en parle avec deux membres de la Jeune Chambre économique de Laval qui portent ce projet. Évidemment, comme tous les jeudis, on va retrouver aussi notre cycle de reportages avec les radios associatives de la région, avec les radios de la Frappe, et on va parler aujourd'hui du local vu par un astrophysicien, et ça a de quoi vous surprendre. Je vous laisserai découvrir ça en fin d'émission, tout comme notre quatrième épisode de notre feuilleton à la fromagerie du Haut-Anjou. Et ça y est, peut-être que vous l'attendiez depuis le début de semaine, ça y est, on parle vraiment des fromages, à quoi ils ressemblent, avec d'ailleurs une petite particularité, un fromage gris, vous l'entendrez, tout ça est naturel. Mais d'abord, on va faire un petit point autour de l'actualité aujourd'hui en Mayenne. Guillaume Chevrollier, à la tête d'une mission d'information, le sénateur mayennais a été élu président de la mission d'information « Protéger et accompagner les individus en construisant la sécurité sociale écologique du 21e siècle », c'est son nom entier. Elle a déjà procédé à ses premières auditions avec la direction de la sécurité sociale du ministère des Affaires sociales et de la Santé et rendra ses conclusions en mars prochain. Il était pneumologue à l'hôpital de Château-Gontier, mais aussi président du syndicat départemental d'apiculture. Michel Desjobert est décédé ce week-end à l'âge de 65 ans. C'est lui notamment qui avait créé une unité sommeil au centre hospitalier du Haut-Anjou. Ses obsèques auront lieu cet après-midi à 14h en l'église Saint-Rémy de Château-Gontier. Trois abattoirs mayennais soutenus par France Relance pour moderniser leurs équipements et améliorer l'accueil des animaux, mais aussi les conditions de travail des salariés, sont concernés. L'abattoir municipal de Cran à hauteur de 266 000 euros, l'abattoir Olviaport à Laval pour 428 500 euros et l'abattoir d'Audet à Fromentières avec 118 000 euros. Et puis dans les maisons France Services du Sud Mayenne, bientôt une permanence des finances publiques. Quand je dis bientôt, d'ailleurs très bientôt, dès le début du mois de janvier, la direction départementale des finances publiques sera là sur rendez-vous de 9h à midi à Saint-Denis-d'Anjou et de 14h à 17h à Biernay, les premiers et troisièmes lundis de chaque mois. Vous pouvez d'ores et déjà prendre rendez-vous au 06 74 03 30 87 ou bien sur votre espace particulier sur le site impots.gouv.fr. Et puis je vous en parlais en tout début de cette émission, de nouveaux cours de hula hoop et de hoop dance près de Mayenne. La pratique est encore peu répandue en France et c'est d'ailleurs pour la faire connaître que Jeanne Rosier a créé à Saint-Georges-Butavant l'association La Mangouste Électrique. Elle propose dès le mois de janvier des cours hebdomadaires de hula hoop et de hoop dance, de la danse avec cerceau donc, pour les adultes. Elle a même redécouvert cette pratique il y a 4 ans et demi.
Quand je suis arrivée en Mayenne, je connaissais personne et j'avais un petit peu peur de m'ennuyer. Donc j'avais amené avec moi beaucoup de passe-temps, dont un cerceau qui traînait chez mes parents depuis plusieurs années. Et quelques mois après être arrivée en Mayenne, je participais à une convention de jonglage, donc un regroupement de personnes qui jonglent. Et je suis tombée sur une personne qui pratiquait les hula hoop depuis quelques temps déjà et qui, en une demi-heure, m'a montré plusieurs mouvements de base. Et j'ai tout de suite accroché avec la pratique parce que ça mélangeait le fait de bouger son corps, la musique, un côté physique et en même temps un côté de concentration en fait. Et après, pendant un an et demi, j'étais tellement à fond que j'y pensais le soir avant de dormir. J'allais, dès que j'avais un moment au parc avec de la musique et avec mon cerceau, on connaît souvent le cerceau à la taille qui est le plus connu, mais en fait on peut faire tourner le cerceau sur toutes les parties du corps et faire des lancers, des illusions visuelles. Enfin, les possibilités sont vraiment infinies. Et quand j'ai découvert ça, ça a été une révélation. Et il y avait un petit côté addictif où j'avais envie d'en faire toujours plus. Ce qu'on appelle le hula hoop, ça va plutôt être le côté un côté un peu plus sportif, presque fitness. où on va enchaîner des tricks, on appelle ça, donc des figures. Et il y a un autre courant qui est la hoop dance, qui est plutôt ce que je pratique, où il y a cet aspect vraiment danse avec l'objet qu'est le cerceau, et où là, on va être dans un processus plus créatif, en fait, et qui encourage au lâcher-prise, parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. À partir de janvier, il y aura des cours hebdomadaires à Saint-Georges-Butavant, tous les lundis soirs, de janvier à juin. Et on propose deux créneaux, le premier de 18h30 à 19h30 et le second de 20h à 21h sur inscription, sachant que le cours d'essai est offert pour que les gens puissent aussi venir découvrir et essayer. Et on prête les cerceaux pour les participants et participantes.
Jeanne Rosier a suivi une formation en ligne pour devenir professeure de hula hoop. Et en plus des cours hebdomadaires, elle propose des ateliers d'initiation lors d'événements culturels ou des stages dans d'autres villes du Grand Ouest. Renseignements par mail à mangouste.electric@gmx.fr ou sur les réseaux sociaux, il vous suffit de taper la mangouste électrique. On va passer à une petite pause musicale et tout de suite, juste après, on va parler de cette opération menée par la Jeune Chambre économique de Laval. Soyez culottés.
But I didn't think much of you back then. And I think you loved me first, 'cause it sure took me a while to figure out that you were kinda special. But now you're old and full of ticks and yell at everybody just for kicks. And I wish that you would just shut up. Why do you scream at me? Do you scream? I don't know why you have to do that, 'cause things don't seem all that bad to me. Oh, I'm begging you, please, baby, please don't scream. Do you remember that old cat who beat you up?
C'est Nathalie Dawn, Please Don't Scream, dans l'agité du local sur l'autre radio, jusqu'à la dernière note. évidemment. Et pour Noël, je vous propose d'offrir un cadeau culotté, ou je vous propose, ou plutôt les jeunes chambres économiques de Laval et du département qui vous proposent, avec cette nouvelle opération, un financement participatif, vous pouvez en tout cas aider des collégiennes de 4e à obtenir gratuitement un kit de culottes menstruelles, le tout en obtenant aussi vos propres culottes. L'objectif, c'est de lutter contre la précarité menstruelle qui touche en France 2 millions de personnes. La Mayenne, évidemment, est aussi concernée. Zoom sur ce projet porté par la Jeune Chambre économique de Laval.
Je suis Héloïse Loriot, donc dans la vie responsable communication et à mes heures perdues, membre de la Jeune Chambre économique de Laval depuis 2013. Et je fais partie de la commission donc portée par Julie qui s'appelle... Département culotté, soyons culottés.
Donc Julie, moi je fais partie de la Jeune Chambre économique de Laval depuis 2014. Au boulot, je suis graphiste et sinon maman d'une petite fille de 9 ans. Et cette année, j'ai proposé à la Jeune Chambre de travailler sur un sujet qui me tenait à cœur, à savoir la précarité menstruelle.
Donc c'est vous qui avez un peu impulsé le projet. Comment ça s'est passé justement? Comment est née cette idée? Vous dites que c'est un sujet qui vous tient à cœur, la précarité menstruelle. Pourquoi déjà, tout simplement?
Alors en fait, c'est né d'un, tout simplement de plusieurs interviews et autres reportages que j'ai entendus lors du premier confinement. En fait, il y a eu une première étude nationale à ce moment-là sur la précarité menstruelle qui m'a pas mal intéressée. Et je me suis dit, waouh, c'est un sujet finalement qui est hyper important, qui touche beaucoup d'étudiantes, enfin étudiantes au sens large, hein, collégiennes, lycéennes et même plus grandes, dont on n'avait pas la mesure finalement avant cette étude. Et puis, suite à ça, il y a eu beaucoup de reportages et donc j'ai continué à me renseigner sur le sujet et j'entendais des jeunes filles qui témoignaient et qui disaient qu'effectivement, c'était compliqué de se procurer des protections, que certaines fabriquaient des protections avec du papier toilette, d'autres ne changeaient pas leur protection de la journée, quitte à prendre un risque de choc toxique parce que c'était bruyant, c'était gênant, enfin... Donc là, je me suis dit, waouh, il y a un vrai sujet. Enfin, moi, je me projette dans ma vie de maman. Alors, 9 ans pour l'instant, ma petite fille, elle n'est pas concernée. Mais je me dis, plus tard, si c'est ça qui l'attend, c'est quand même hyper inquiétant, quoi. Lors de notre séminaire à Laval, en début d'année, on propose des sujets de commission qui peuvent toucher vraiment toutes sortes de sujets. Et quand moi, j'ai proposé le sujet, il a été voté. Et donc, on a monté une équipe de 7 membres au sein de la Jeune Chambre économique de Laval. Et ensuite, en fait, parce qu'on a des ambitions aussi un peu importantes et qu'on s'est dit que l'expérimentation, elle devait être menée à l'échelle du département, on a proposé aux deux autres jeunes chambres du département de nous rejoindre sur l'action, puisque on pensait qu'il y avait un vrai impact et un vrai intérêt à tester notre idée sur l'échelle du département pour faire un peu un test, on va dire, départemental, et ensuite de pouvoir le vendre nationalement, quoi.
Il y avait directement cette idée de partir sur des culottes menstruelles et pas forcément sur ce qui peut déjà exister, à savoir des distributeurs de protection périodique.
Alors on avait bien effectivement identifié des distributeurs, il y a des collèges et des lycées notamment qui l'ont mis en place et des universités aussi, je crois. Comme disait Julie, il y a des questions qui sont liées aux protections jetables, hein, qui sont plus de l'ordre effectivement du où est situé le distributeur. Pour certaines catégories de, notamment de collégiennes, ça peut être un peu encore un sujet un peu tabou. Donc il y avait cette dimension-là, et puis il y avait la dimension aussi du jetable, qui nous semblait être un point important. Alors c'est une bonne chose pour lutter contre la précarité menstruelle. Après, on reste sur des protections jetables. Donc nous, on était parti plutôt sur l'idée de se dire, faut aller un petit peu plus loin. C'est déjà une bonne chose pour lutter contre la précarité menstruelle. Maintenant, si on veut aller vers quelque chose un peu plus durable, il existe des solutions. Et dans ces solutions, je crois que Julie, dès le début, tu avais l'idée de la culotte qui reste quelque chose d'assez simple.
Alors, il y a cette facilité d'utilisation, hein, mais aussi parce qu'on a eu l'occasion de sonder un petit peu des jeunes femmes pour connaître leur ressenti par rapport à un souhait de tester culottes, serviettes lavables, cups, etc. Nous, on a fait le choix de s'orienter vers la culotte aussi pour ça, parce que on l'enfile le matin, on l'enlève le soir, et ça, c'est quand même hyper confortable.
Une fois que cette décision, en tout cas, était prise, j'imagine qu'il a fallu réfléchir à comment la fabriquer, comment ensuite la distribuer. Comment ça s'est passé ? Est-ce que vous avez déjà trouvé un partenaire pour la fabrication ? J'imagine que oui.
Oui, alors ça c'est pareil, on a effectivement fait un peu le tour d'horizon de ce qui existait. On s'est dit qu'il était hors de question de distribuer un produit qui n'était pas fabriqué en France, parce que on trouvait que pour aller jusqu'au bout de l'action, il fallait trouver un produit qui correspondait à nos valeurs. Donc, on a fait le tour un peu des fabricants de culottes menstruelles en France. Donc, il n'y en a pas non plus des tonnes. On a identifié deux partenaires. Un qui était dans les Pays de la Loire, parce qu'on s'est dit que idéalement, si ça pouvait être fabriqué tout proche de chez nous, c'était plutôt cool. Donc, on a commencé à travailler avec les Mouettes Vertes, qui est situé qu'un atelier à Laval. Donc, ça, c'était super bien. Qui ont un produit qui correspondait vraiment à ce qu'on recherchait. Et on avait identifié un second partenaire qui est à côté de Lille, dans le nord de la France, plus historique, plus ancien, qui travaille notamment avec des marques comme le slip français, donc bien établi, et qui proposait un produit pareil, techniquement super bien, qui répondait à tous les critères, et alors qui était un peu moins cher. Donc a priori, compte tenu de nos problématiques de budget, je pense que notre orientation se fera, même si on aurait aimé travailler en local, vers quelqu'un qui propose un produit équivalent à un tarif un tout petit peu moins cher pour pouvoir distribuer plus de culottes.
Justement, comment une telle opération est financée ?
Alors, on a commencé effectivement par nous rapprocher des entreprises. Alors, à la base, on avait identifié en Mayenne à peu près 12 000 lycéennes et collégiennes. C'est le ratio de départ, donc ce qui nous sert un sacré budget, sachant qu'on est parti sur l'idée de se dire aussi, c'est important je pense, pour tester le principe de la culotte menstruelle, une seule culotte n'est pas suffisante. Notre idée c'était aussi de partir sur un kit de 3 culottes, de manière à pouvoir tester la chose dans les meilleures conditions. Et partant de là, du coup, voilà, on avait quand même un budget assez conséquent de départ. Après, là, on s'oriente dans un premier temps plutôt sur la cible des collégiennes, avec des premiers tests en quatrième, ce qui réduit un petit peu notre cible de départ. Et donc, pour le financement, on était parti dans l'idée de se dire qu'il fallait vraiment que ce soit un projet de territoire. Donc, on n'aille pas uniquement solliciter nos institutions, mais qu'on aille aussi solliciter les entreprises et les Mayennais. Que ce soit vraiment un projet qui soit porté par tout le monde, avec l'idée de se dire qu'il fallait aussi que ce kit soit remis à titre gracieux à l'ensemble des collégiens, en l'occurrence. Et donc, on a commencé par présenter l'opération auprès des entreprises en septembre, pendant les universités des entrepreneurs mayennais, pour tester aussi, c'était aussi pour nous l'occasion de tester, voir si le projet était porteur ou pas aussi sur le territoire. Et on a eu un super accueil, franchement, c'était vraiment chouette. On a récolté déjà un petit peu moins de 20 000 euros sur cette première opération, et ça représente, je crois, une dizaine ou une quinzaine d'entreprises. Et toujours pareil, hein, que notre interlocuteur soit un homme ou une femme, on a tous dans notre entourage des jeunes filles. On sait que c'est un sujet, on en entend de plus en plus dans les médias. Première action, une fois qu'on a tué les entreprises, l'objectif c'était aussi d'aller en parler aux Mayennais, aux Mayennaises, et de les solliciter à travers une opération participative, donc à travers Hello Asso, qu'on utilise régulièrement. Et le principe, c'est de faire un don de 25 ou 69 euros. Et ce don nous permet de financer soit une culotte, soit un kit pour une collégienne. Et la contrepartie, c'est que du coup, on remet la même chose à la personne qui fait le don. Donc si vous faites un don, vous aurez également une culotte ou un kit de 3 culottes.
cette opération-là, elle est menée jusqu'à quand? Comment ça va se passer concrètement jusqu'à la distribution des protections
alors,
aux collégiens?
Aujourd'hui, on a une idée des échéances à venir, mais pour l'instant, il n'y a rien de... Enfin, on n'est pas bloqué, on ne se donne pas de date butoir absolument sur la fin, puisqu'en fait, à ce jour, on a rencontré la DESDEN, qui est la direction départementale de l'éducation nationale, dans le but justement de les intégrer à notre opération, parce que forcément, on rentre pas dans des établissements scolaires comme ça. Le projet en soi, il a été plutôt bien accueilli, mais ils ont quand même insisté sur le fait qu'il était important de refaire une communication sur l'ensemble des protections existantes, puisqu'ils n'ont pas, et ce qui est normal, hein, pour vocation de privilégier une protection plutôt qu'une autre. Donc, ce qu'on a imaginé ensemble, c'était déjà dans un premier temps d'interroger notre cible de quatrième pour savoir quel était le pourcentage de jeunes filles qui seraient intéressées pour tester cette solution. Et puis ensuite, une fois qu'on va pouvoir avoir un nombre, et puis c'est l'occasion aussi de collecter les tailles, parce que ça c'est quand même un point clé sur la commande de culottes menstruelles, une fois qu'on va avoir ce retour, qu'on va pouvoir avoir via leur réseau et connaître le retour des collégiennes, l'idée c'était de pouvoir leur fournir un document de communication qui allait reprendre l'ensemble des protections existantes, leur expliquer les avantages, les inconvénients, le fonctionnement de chacune. Et suite à ça, on allait pouvoir organiser la distribution des culottes. Et on a imaginé ce temps d'échange et de distribution sur le temps qui est donné à l'école, qui est le temps d'éducation à la sexualité.
Et qu'est-ce que vous espérez justement avec cette opération à l'issue ?
Plusieurs choses. La première chose, c'est que on aimerait faire découvrir la culotte menstruelle à des jeunes filles pour pouvoir finalement rentrer dans un processus de protection saine et durable. Parce qu'on est persuadé que aujourd'hui, c'est une quête qui existe dans plein de domaines. C'est déjà des jeunes filles qui sont sensibilisées de par leur famille et leur éducation au développement durable, etc. Donc clairement, on pense que ce produit s'adapte en fait à la démarche qu'actuellement on mène au sein de nos familles finalement. D'autant que c'est un produit qui est souvent onéreux. Le coût moyen d'une culotte fabriquée en France, c'est à peu près 35-39 euros l'unité. Donc si la jeune fille elle souhaite tester et en acheter trois d'un coup, clairement le budget il est assez conséquent et c'est souvent un frein. Donc nous on veut prouver que c'est un produit qui est onéreux à l'achat, mais qui finalement, une fois qu'on a passé ce cap, c'est un vrai bel outil. Ensuite, on veut aussi en profiter pour remettre ce sujet qui est encore tabou finalement, les règles, les protections, etc., en discussion au sein des familles, puisqu'en fait, on imagine bien que la jeune fille qui va rentrer de l'école en disant à l'école, j'ai l'occasion de tester des culottes menstruelles, effectivement, ça va créer du débat et des discussions au sein des familles, parce qu'en fait, on s'aperçoit que c'est encore un sujet tabou et que finalement, est-ce que la culotte ne pourrait pas aider à dédramatiser le discours ? Pourquoi pas ? Et puis en fait, l'expérimentation au sein du département, on veut aussi s'appuyer sur les résultats qu'on va pouvoir avoir pour pouvoir dire, aujourd'hui, on constate que financer des protections périodiques, s'il y a une vraie utilité, il y a un vrai engouement. Et si effectivement, on a un vrai engouement, on voudrait pouvoir aller plus loin et présenter notre commission départementale lors de notre futur congrès Jeune Chambre nationale, pour pouvoir le promouvoir au sein de toute la France et que ce sujet puisse être récupéré par toutes les locales existantes en France et ainsi concourir au fait que les mentalités peuvent changer et on peut opter directement pour une protection saine et durable.
Et pour accéder à ce financement participatif, rendez-vous sur helloasso.com. Vous pouvez chercher Soyons culottés ou bien la JCE Laval, une carte cadeau de 25 ou de 69 euros à mettre sous le sapin avec une livraison prévue à la fin du premier trimestre 2022. On va passer à notre cycle de reportage Pensée locale juste après cette jolie reprise de Nina Simone, Feeling Good de Ben Loncle Soul.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. It's a new dawn, it's a new day. Ooh, and I'm feeling good. Yeah. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good, and I'm feeling good. Dragon. Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and it's all work for me. And I'm the pine, you know how I feel. Whoa, freedom is mine, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good, yeah, oh. I'm feeling good. You know I feel good. You know I feel good. Oh, yeah.
Vous l'avez reconnu, bien sûr, c'était Feeling Good, non pas par Nina Simone, mais reprise, pardon, par Ben L'Oncle Soul. Quel enthousiasme devant cette chanson, désolée pour ce petit bruit de micro. En tout cas, on va pouvoir passer évidemment à notre cycle de reportages pensées locales, une notion abordée aujourd'hui par l'astrophysicien Roland Lehoucq. Il travaille à l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers. C'est aussi le président du Festival des Utopiales à Nantes. Il vous propose une réflexion sur les différentes échelles existantes de ce local dans un reportage signé Alternante FM.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Cette semaine, prenons de la hauteur et pensons le local avec le regard de Roland Lehoucq, astrophysicien à l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers et président du Festival des Utopiales, et de François, rencontré au hasard d'une déambulation dans le centre-ville de Nantes.
Comment un astrophysicien définit le local ?
Ah, ça c'est une question d'échelle. Alors, ça dépend à qui vous parlez comme astrophysicien. Si c'est quelqu'un qui est dans le monde de la planétologie, le local, c'est la Lune, disons, et un peu plus large, c'est le système solaire. Si c'est un planétologue qui s'intéresse aux exoplanètes, alors le local, ça devient d'emblée la galaxie, puisqu'on a découvert maintenant plus de 4700 exoplanètes dans notre galaxie. Donc ça devient tout de suite des distances qui sont bien plus considérables que celles qui sont dans le système solaire. Et puis, si vous parlez maintenant à quelqu'un qui s'intéresse aux galaxies, alors lui, il va vous parler comme du groupe local. Le groupe local, c'est notre Voie lactée, et c'est d'autres galaxies qui sont autour, qui vont avec elles dans ce qu'on appelle le groupe local. Notre galaxie étant l'une des deux plus grosses, l'autre plus grosse étant la galaxie d'Andromède, qui est à 2 500 000 années-lumière. Donc là, on passe vraiment dans un autre monde en termes de distance. Et puis après, il y en a qui vont vous dire « Ah oui, mais moi, je ne m'intéresse pas aux galaxies et au groupe local, je m'intéresse aux amas de galaxies, à une structure encore plus grande. » Ils vont vous parler de l'amas local. Alors là, c'est l'amas des galaxies, c'est un amas qui regroupe des groupes de galaxies. Et donc là, on est encore dans une échelle plus grande. Donc le local, ça dépend toujours de qui parle. C'est une question d'échelle, en fait. Et en astrophysique, on est obligé de manipuler de la plus petite échelle, finalement, de l'échelle nucléaire, dans les réactions nucléaires qui se déroulent au cœur des étoiles, par exemple. Donc là, c'est des échelles qui sont millionièmes, de milliardièmes de mètres, jusqu'aux échelles les plus grandes, c'est-à-dire l'univers dans son ensemble. Et de l'une à l'autre, il y a 26 ordres de grandeur, 10 puissance 26 écart, un écart de taille. Et donc, ça fait quelque chose comme... 10 puissance 26, c'est dur à dire, hein. C'est un dixième de milliard de milliards de milliards. Voilà, c'est beaucoup, en tout cas.
Et si je m'adresse à vous ?
Comme j'ai agi en cosmologie, effectivement, pour moi, quand on me dit local, en tant qu'astrophysicien, j'ai tendance à penser au groupe local. Notre Voie lactée, et puis les galaxies qu'il y a autour, c'est ce qui me tombe le plus facilement sous le sens, et à l'amas local. Donc plutôt aux échelles, aux très très grandes échelles, plutôt qu'aux échelles intermédiaires, qui seraient celles internes à la galaxie, ou carrément encore plus petites, mais déjà très grandes pour nous, le système solaire.
À tous de DDO, attention pour le décompte final. 5, 4, 3, 2, 1, top.
Ah oui, la station orbitale est à 400 km. Nantes-Paris, quelle distance ? Je ne sais pas en tête, mais je dirais en ordre de grandeur 400 km. Lyon-Paris, à peu près 450. Donc voilà, la station spatiale, elle est, vue de Paris, elle est aussi loin que Lyon ou Nantes, quoi. En termes de distance, elle est vraiment assez proche, hein. C'est des distances qui sont internes à la France, hein. Enfin, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour atteindre la station spatiale internationale. Et même l'espace est encore plus près. La limite un peu arbitraire définie pour l'espace, c'est 100 km d'altitude. Donc voilà, 100 km, c'est extrêmement proche, hein.
Pensée locale, un enjeu de société.
Comment vous définiriez le local ?
C'est pas un test, hein, évidemment. Moi, vous avez bien compris l'idée.
L'univers, hein. Au niveau local, pour moi, c'est ça. On ne sait pas ce qu'il y a vraiment localement. Il y a de plus en plus de recherches qui sont faites. On découvre aujourd'hui qu'on a des planètes qui sont, comment dire, peut-être habitables ou des choses comme ça. Et on se rend compte que bah, peut-être qu'un jour, on va découvrir qu'on n'est pas tout seul. Et curieux de découvrir un jour une planète pas si loin que ça, de se dire qu'il y a possibilité de se dire qu'on peut y aller. On voit bien qu'aujourd'hui, sur Mars ou des choses comme ça, on a déjà un peu de mal à y aller. Pourquoi pas dans 100, 200 ans, aller là-bas. Aussi facilement que d'aller aujourd'hui Paris-New York, un truc comme ça. Comme on voit les milliardaires aujourd'hui qui se tirent la bourre pour aller dans l'espace, faire des courts séjours de quelques heures, je crois. Ils vont dans l'espace, Elon Musk, etc.
Oui, il va en orbite carrément, Elon Musk. Et les autres, ils font des vols qu'on appelle suborbitaux, ils vont à 100 km d'altitude. Ils vont pas très loin finalement, ils vont juste verticalement, quoi. C'est ça la difficulté. C'est un peu au-delà de 100 km, ils disent « je suis dans l'espace voilà. ».
Dans mon idée, c'est une question de distance.
Vous pensez en notion de distance, mais peut-être ce jeune homme a pensé en termes de proximité intellectuelle, donc de proximité de temporelle. C'est le demain, c'est local, ou dans 200 ans, si on peut aller dans l'espace, les gens peuvent voyager dans l'espace. C'est local parce que l'humanité elle est là depuis 4 millions d'années sur Terre, donc finalement c'est dans pas si longtemps, 200 ans.
Pour prolonger la réflexion en cette période de Noël, devant le sapin, vous pouvez demander à votre entourage, au grand comme au petit, si l'objet, souvent une étoile, accroché à la cime de l'arbre, est proche ou distant de leurs mains.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Un reportage de Michel Sourget pour Alternante FM.
Reportage que vous pouvez bien sûr réécouter sur notre site l'autreradio.fr. Place au quatrième épisode de notre feuilleton au sein de la fromagerie du Haut-Anjou à Biernay, qui a repris son activité il y a un an et demi, avec plus précisément une première production lancée en juillet 2020 et donc de première vente deux mois plus tard, en septembre 2020, sous l'impulsion des propriétaires Dominique et Gilles de Valicourt et du fromager Max Edet. Il nous présente sur un plateau, s'il vous plaît, les différents fromages produits sur place à Biernay.
Devant vous, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fromages. Donc vous avez les trois petits formats qui font à peu près 200 grammes. Ça, c'est ce qu'on appelle les pâtes molles. C'est le nom de la technologie fromagère. Donc celui-là, le premier qui est tout blanc, c'est le crémeux d'Anjou, qui a vraiment une pâte très souple, très consensuelle, goût léger de lait, voilà. L'objectif du crémeux, et c'est aussi l'objectif avec l'ardoise, c'est de faire un fromage tout doux, consensuel, et qui plaît beaucoup aux enfants. Alors le caractère, vous allez voir, il calme un peu plus. Celui-là, il est à 6 semaines d'affinage. Les pâtes molles, ça s'affine très très vite. Pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de manger du fromage, on a le crémeux et l'ardoise d'Anjou. Et puis ensuite, on a la douceur d'Anjou, le caractère d'Anjou, le fort d'Anjou, qui conviennent quand même à la plupart des amateurs de fromage bien affinés. Et ceux qui aiment vraiment du punch, c'est caractère et fort. Pour l'instant, je vais vous faire goûter la douceur d'Anjou, donc qui est une tome, façon abbaye. Ça, c'est affiné 2 mois minimum, et celle que vous avez est affinée 5 mois. Là, on cherche à avoir un fromage vraiment souple. C'est une pâte pressée non cuite, donc comme on presse le fromage, il y a moins d'eau. Celui-là, vous le voyez, il est un peu plus jaune, c'est parce qu'il est affiné à la bière. C'est le même que celui que vous venez de goûter, c'est la douceur d'Anjou, mais on l'affine à la bière. Les Belges et les Ch'tis le font, et la tante du mari de Dominique fait une tome affinée à la bière, la tome de Cambrai. On sent pas le goût de la bière, parce qu'en fait, la bière, elle rajoute de l'eau, comme ça les bactéries travaillent, et elle rajoute aussi des levures, et les levures vont travailler la pâte. Et faut pas chercher l'arôme de bière, on peut sentir l'arôme de houblon, l'amertume du houblon, mais les goûts maltais, c'est plus pour retravailler la croûte du fromage. La pâte aussi est plus sèche. Tout début, on n'arrivait vraiment pas à donner de goût ou de différence avec la bière. Je disais, on fait du fromage à la bière, mais on ne voit pas la différence avec du fromage nature. Et puis maintenant, bon, il y a une bonne différence quand même. Déjà, il faut bien maîtriser la quantité d'humidité et de sucre qu'on va laisser dans le fromage. Mais surtout, si on veut vraiment faire un bon affinage, il faut vraiment contrôler, par exemple, la quantité d'humidité et de sucre qui reste, la température de réessuyage, le degré de réessuyage, pour faire travailler ce qu'on appelle les levures. D'abord, c'est les premiers micro-organismes à travailler, et ensuite les bactéries. Alors le fromage tar, c'est la douceur d'Anjou, c'est notre tome. C'est vraiment un fromage qui a à la fois du goût, puisque c'est du lait cru, mais en même temps n'est pas non plus trop fort comme un Livarro ou un Maroilles. Donc vraiment, on est sur un fromage qui est bien équilibré. En plus, en ce moment, c'est la saison des raclettes. Il marche très très bien fondu, donc vraiment, c'est super intéressant. C'est pour ça qu'on l'aromatise. C'est celui que vous n'avez pas encore goûté, c'est la douceur d'Anjou aromatisée. La douceur d'Anjou plaît à tout le monde, et le crémeux d'Anjou plaît vraiment à beaucoup de personnes qui ne cherchent pas un fromage avec trop de punch.
Un autre fromage surprenant évoqué dans l'interview, vous avez peut-être entendu son nom, il s'appelle l'ardoise, de couleur gris-bleu, colorée avec de la cendre végétale. Tous les produits sont à retrouver à la boutique sur place les mercredis et vendredis après-midi ou le samedi matin, ou encore chez vos crémiers et épiciers locaux. Et demain, pour ce 5e et dernier épisode, cap sur les projets à venir pour la fromagerie. C'est la fin de notre émission L'AGT du local pour ce jeudi. Merci de nous avoir suivis. Et merci à Andy qui a fait la technique toute cette semaine. Et oui, puisque vous l'entendez, je suis à distance. Et donc, merci Andy pour la technique. En tout cas, ne nous quittez pas, puisque à 19h, il y aura la sagesse de Tug avec une phrase aujourd'hui. Si pour le savant, le monde doit être disponible, grâce à l'artiste, il devient habitable. Et oui, ça laisse toujours autant songeur. Ce sera suivi à 21h de Rock My Soul, la dernière émission de l'année à ne pas manquer. Donc, nous, on se retrouve demain pour la dernière émission de la semaine. Je vous souhaite une très bonne journée.